Alors, avant que vous partiez, on va parler de l'enseignement général quand même.
Alors, est-ce un métier différent ? Donc, quel a été l'impact pour le bac pro 4 ans en bac pro 3 ans ? Donc, ça, je ne vais pas déflorer ce qui va être dit cet après-midi. C'est simplement un regard entre un professeur, une formatrice en enseignement général et puis ce qui a été dit sur l'enseignement professionnel. Donc, sur le public. Alors, pour les élèves, une des idées prégnantes était un phénomène d'usure. Hein. Parfois, on pouvait rester très longtemps dans un établissement. Au contraire, ça permettait à des élèves de se reconstruire, de reconstruire une image positive qu'ils pouvaient avoir d'eux-mêmes, qui avait été plus ou moins écornée, démolie par le collège. C'est vrai que ce bac pro 4 ans, beaucoup d'enseignants disent que la première année, ça permettait ces constructions valorisantes de l'élève, de lui par rapport à lui-même. Et au mois de janvier, quand il y avait ces premières réunions parents-prof, des familles, des parents interpellaient des enseignants en leur disant « Mais qu'est-ce que vous leur avez fait ?» Depuis 3 ans, je voyais pas le... Ils ne me parlaient pas de l'école, je ne voyais pas les classeurs, et aujourd'hui, ils me font voir ces classeurs. Et cette année, c'est vrai que dans le 4 ans, 3 ans, comme on a moins de temps, on rentre directement dans le boulot et on passe peut-être moins de temps à la reconstruction de l'estime de soi chez l'élève. Voilà. Dans ce temps-là, on permettait de retrouver une estime de soi, de tisser des liens et d'être dans un accompagnement un peu plus domestique. Pour d'autres élèves, le fait d'être dans un temps long, eh ben, il y avait une sorte de saturation de voir les mêmes locaux, les mêmes profs, faire les mêmes choses, etc. etc. Donc il n'y a pas de vérité, voilà, c'est des cas un peu, des postures différentes. Pour les enseignants, l'enseignant du domaine général, c'est la possibilité de travailler à long terme sur des difficultés concernant l'écrit, perceptiblement français par exemple, mais qui transparaissait peut-être un peu moins au niveau des progressions au niveau de l'oral. Hein. Tout le monde sait à peu près parler. Par contre, l'écrit témoigne beaucoup plus de choses qui sont acquises. Le bac professionnel, alors ça c'était sur le 4 ans. Sur le 3 ans, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ils s'inscrivent un peu comme des lycéens normaux. Ils suivent un cursus en 3 ans, seconde, première, terminale, et je passe un bac. Et les médias, donc comme je le disais en préambule, prennent ces élèves, ces lycéens, comme les autres. Hein. Pour les familles, la lecture était la même, seconde, première, terminale, voilà. Avec le problème qui était énoncé tout à l'heure, c'est que avec un bac professionnel qui normalement devrait déboucher sur le monde du travail, on ne peut pas empêcher des élèves, parce que l'estime de soi s'est reconstruite, de nouveau d'avoir une certaine appétence pour le savoir et de vouloir continuer. Moi, les étudiants que j'ai en licence pro, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Hein. Moi, après la licence pro, je m'inscris dans le cursus LMD, hein, donc je suis à Bac plus 3, ça suffit. Et puis on s'aperçoit qu'en fin de licence, ben, il y en a 25% qui veulent continuer. Voilà. Et certains, même d'une licence pro professionnelle, pour rentrer en master, refont une licence normale à l'université pour être pris dans un master, hein, pas d'alternance. Voilà. Donc ça peut révéler des appétences, une envie de continuer. Et ça, je dirais que c'est plutôt même positif pour le monde de la formation, de redonner goût à apprendre des gestes professionnels, des contenus, du savoir, à quelqu'un qui, à un moment donné, était en rupture par rapport à ça. Pour les familles et les élèves, ça j'ai déjà dit, hein, excusez-moi. Pour les enseignants, avec cette réforme, d'autres réformes sont arrivées en enseignement général, notamment, comme il y a moins de temps, on est passé de 4 ans à 3 ans, il y a eu moins de dédoublements en termes locaux, donc avec des classes plus chargées, avec parfois, en génie civil par exemple, j'ai des maçons et des menuisiers, très peu de liens communs entre les deux. Si encore j'ai un plombier et un chauffagiste, il y a une filière qui est à peu près commune. Mais parfois, pour des organisations locales, d'emploi du temps, de différentes choses, l'enseignant, peut, d'enseignement général, peut se retrouver avec des conditions de métier plus difficiles, avec moins de dédoublement, par exemple. Hein. Donc là, c'était moins de temps pour le regroupement. Une diminution du temps dédié à la discipline. Moins de travail commun, voire absence de travail transversal, de projet avec l'enseignement professionnel, par exemple, avec une conséquence parfois des problèmes de gestion de classe. Là, je vous ai marqué là, la disparition des PPCP, des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel. C'était bien un lieu où l'enseignement général, parce que c'était bicéphale, enseignement général et enseignement professionnel, il y avait un outil qui permettait de faire travailler ensemble deux domaines complètement différents sur un projet qui était quand même transversal, puisque le professeur d'enseignement professionnel pouvait corriger des fautes d'orthographe, faire des et les élèves s'apercevaient que son prof d'enseignement, je caricature, hein, son prof de peinture, il savait faire des fautes, ben, il savait repérer des fautes d'orthographe ou faire plein d'autres choses. Parce qu'ils vous mettent dans des boîtes, prof de peinture, prof de maçonnerie, entre guillemets, ne sait pas faire des opérations. Et le prof de maths, il parlait des tangentes, moi je parlais des pentes, c'est exactement la même chose. Et quand je disais mais c'est une pente, c'est une tangente, les élèves ne comprenaient pas que je puisse savoir qu'est-ce que c'était qu'une tangente. Voilà. Donc le fait de ces projets transversaux, ça permet de décloisonner. Et surtout pour les élèves de voir qu'un enseignant il a plusieurs compétences.
Alors, par à ça, il existe maintenant le GLS, un enseignement enseignement général lié à la spécialité. Mais le problème, vous savez que normalement le jeune a le droit à 152 heures de GLS sur l'ensemble de sa formation. Ah, mais ce qui est comme il y a autonomie des établissements, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une enveloppe. Très souvent le GLS c'est la grande victime. Donc ça disparaît parce qu'on se sert de 16 heures pour d'autres choses, dédoubler, etc., etc. Bon, et ce qui fait que là, on a vraiment perdu le PPCP. Normalement, aurait dû en partie, parce que c'est pas tout à fait le même esprit, mais aurait dû en partie être remplacé par le GLS. Ben alors, comme tu dis, il a complètement disparu parce que le GLS, très peu finalement arrive à récupérer ces genres de GLS. Alors bon, moi j'essaie de dire, au moins gardez-en l'esprit si vous en avez pas le temps. Mais ça c'est donc c'est vrai que là, je pense que les domaines généraux ont beaucoup perdu par rapport à ça.
Avec aussi pour les enseignants qui faisaient de l'aide, de l'histoire, de la géographie, l'éducation à la citoyenneté, qui sont plutôt dans la polyvalence plutôt que dans une matière disciplinaire, ont été pris par d'autres préoccupations, notamment la réforme des programmes. Quand j'ai discuté avec cette formatrice, elle me disait que la réforme bac pro 4 ans en 3 ans était déjà, entre guillemets, une réforme un peu ancienne, parce que la priorité de ses enseignants avait été centrée sur les contenus dans la discipline qui avait complètement changé. Donc beaucoup de travail de refonte dans les programmes. Voilà, donc c'est ce que je vous dis ici. Avec cette enseignante qui intervient dans les formations, dans les concours, elle disait que ce qu'elle entendait dans les concours de la part des inspecteurs, c'était un recentrage sur la discipline. Et non plus sur la... C'est pas que la bivalence était remise en cause, mais c'était qu'il y avait un recentrage qui était plus fort sur la discipline. L'autre point, pour les enseignants du domaine général, c'est des interventions plus morcelées, voire hachées, moins de liens avec les différentes matières, donc moins de transversalité, moins de sens pour les élèves, des problèmes de gestion de classe en augmentation, parce qu'on a moins le temps, parce qu'on ne peut pas prendre un objet de travail abordé avec différents points de vue, historiens, géographes, éducation à la citoyenneté. Ce qui différencie ces deux domaines, l'enseignant en général a une temporalité et des activités pédagogiques sensiblement différentes qui occasionnent des pratiques différentes. Enseignement alors, par exemple, c'est 2 heures, 1 heure, 2 heures. L'enseignement professionnel, c'est 4 heures, 8 heures, parce que la priorité pour un chef d'établissement ou un chef de travaux, c'est les plages horaires des ateliers, et on vient placer ensuite dans un deuxième temps les procédures d'enseignement général qui font qu'on peut se retrouver avec 2 heures de lettres, le vendredi de 16h à 18h. Hein, voilà. L'enseignement professionnel, lui, il a aussi où c'est un peu plus compliqué. Il y a tous les temps des vestiaires, les temps, excusez-moi, j'ai fait une faute d'orthographe, la plus mouvant. Ils ont le temps dans l'atelier de circuler, de discuter plus nominativement avec les élèves parce que le temps d'apprentissage est plus long. Un élève peut se déplacer dans l'atelier, il peut pas le faire en enseignement général. un élève découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas, alors qu'il ne va pas redécouvrir du français ni des maths. Ça fait depuis l'école primaire qu'il fait ça, donc ça peut être aussi, entre guillemets, un obstacle. Donc l'enseignant du domaine général a un temps d'accueil plus contraint. Il a moins de temps pour faire des choses, moins de disponibilité, et les contenus sont contraints par cette temporalité-là.
Plus important.
Oui, bien sûr. Et puis ce qu'on pourrait dire aussi, je n'ai pas écrit, mais qu'on pourrait dire, que je vais vous dire oralement, hein, parce que les écrits restent, mais la parole...
Non, c'est enregistré.
Ça fait rien, je m'engage. même si c'est enregistré. Ce que je peux dire, c'est que je suis rentré j'étais ingénieur génie civil, je suis rentré en lycée professionnel par choix, hein, je veux dire, pas le CAPES, j'ai voulu faire du lycée pro. Mon premier diplôme, c'est un certificat d'études et je suis en train de préparer une thèse. Donc, à un moment donné, moi, on m'a dit que j'étais trop bête pour rentrer dans le cycle classique, hein, où il y avait un concours pour rentrer, un examen pour rentrer au collège. Bon. Grâce à ma famille, j'ai pu rentrer au collège, etc. Ce que je veux dire, c'est que ces enseignants du domaine général, avec les enseignants du domaine professionnel, ils sont passés de 21h à 18h. Les enseignants du domaine professionnel sont passés de 23h à 18h. Et il y a un contentieux souvent non dit, qui est toujours qui circule dès qu'on s'est écouté un peu la parole. Et l'avantage que les PPCP ont eu, c'est qu'à un moment donné, on a pu stabiliser des enseignants du domaine professionnel dans l'établissement parce qu'il y avait des projets. Je caricature, je suis prof de plomberie. Dans un arrangement local, je m'arrange pour travailler le lundi, le mardi, le mercredi. Et le jeudi, vendredi, ben, je bossais au black à côté pour me faire de la gratte. Je dis pas que ça n'existe pas, je sais que ça existe. Ce qui fait que ce domaine contraint, pour avoir, entre guillemets, une gestion sociale dans un établissement, peut venir télescoper, percuter des projets qui peuvent se faire avec l'enseignement général, puisque lui, en général, moi, je connais peu de profs d'enseignement général qui viennent sur 3 jours. Ils viennent la plupart du temps sur 4 jours, voire peut-être, ou par choix, je dirais. Hein, on peut aussi désirer faire 4 jours ou 5 jours pour être moins fatigué, prendre que les matinées, j'en sais rien, peu importe. Hein. Mais c'est vrai que le PPCP, puisque j'y ai participé, moi j'ai bien vu que ça brisait des sortes de représentations que les élèves avaient de leurs enseignants, parce qu'un prof d'enseignement professionnel avait les mêmes compétences qu'un professeur d'enseignement général, et un prof d'enseignement général pouvait aussi très bien avoir des compétences professionnelles, parce que c'est un bon bricoleur, parce que je rajoute ça, il y a plein de choses, hein, plein de choses. Voilà. Et ça a été pour moi... alors après, je ne sais pas comment ça sera posé dans ce qui va venir sur le métier, mais c'est vrai que ce temps de stabilité d'un professeur d'enseignement professionnel dans l'établissement mériterait d'être repensé, hein, pour recréer une dynamique entre les équipes d'enseignement général et d'enseignement professionnel, parce que parfois c'est là où ça se percute.
C'est vrai que moi j'ai vécu ce passage en tant qu'inspecteur, j'ai vécu ce passage de 23 à 18. C'est vrai qu'il y a quand même peu de comment dire de professionnels, si on peut dire, qui ont fait 20 heures en moins de face à face pour le même salaire. Après, je veux dire que ça a eu bon. Or là, on n'a pas su. Je crois qu'à l'époque, on n'a pas su. Enfin, le passage, c'est pas fait, quoi. Et on a très bien vu au niveau des emplois du temps, et Dominique a raison, dans la plupart des établissements, quand on y allait, on voyait les profs d'atelier sur 2 jours et demi. Alors, c'est vrai que... Alors, après, bon, bien sûr, tout le monde a fait marche arrière, hein, en se disant, bon, ben alors, après, faire marche arrière, c'était pas simple, hein. C'est dur. Mais je crois qu'à l'époque, il aurait fallu qu'on n'arrive pas à ça tout de suite. Qu'on dise, bon, OK, vous perdez du temps de face à face. Mais je vous rappelle quand même que vous êtes toujours sur 39 heures. Enfin, à l'époque, on était sur 39 heures. Hein. Bon, donc, OK, vous perdez du face-à-face, mais vous devez toujours quand même être présent dans l'établissement, parce que dans l'établissement, ben, il n'y a pas que du face-à-face. Hein. Et on s'aperçoit que le métier d'enseignant aussi évolue, parce que finalement, quand on regarde, l'essentiel maintenant du travail n'est plus du face-à-face. Ah, moi, c'est pareil. Alors, les enseignants, ça aussi, c'est une particularité de l'enseignant du domaine professionnel. Il a tendance à refaire, à réinventer le fil à couper le beurre tout le temps, c'est-à-dire qu'il refait toujours les mêmes leçons, toujours les trucs, alors que son copain l'a faculté. Non, non, je le refais, parce que moi, je peux pas rentrer. Bon, vous, je sais pas si vous connaissez les compagnons du devoir. Les compagnons du devoir, ils ont centralisé leurs les documents que l'on doit donner. La ressource est centralisée à Paris. Il y a des gars qui font que ça. Le prof, il reçoit sa petite mallette et c'est dans ce qu'il distribue aux élèves, enfin aux apprentis, c'est dans la mallette. Il n'a pas le droit de faire d'autre chose. Il distribue ce qui est dans la mallette. Ça l'empêche pas, et ça, on essaie de le dire au niveau des profs, mais attendez, ce que vous distribuez, c'est un fait. Mais vous, vous pouvez très bien aménager votre cours sur le plan pédagogique, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, les enseignants, ils n'arrivent pas à faire ce genre de choses. Et à l'heure actuelle, je leur dis, mais arrêtez d'inventer le fil à la couper le beurre, constituez-vous des ressources avec une charte unique, hein, au niveau de l'établissement, voire de la filière, et puis distribuez. Vous, tout le temps que vous gagnez là-dessus, vous pouvez le consacrer à monter des projets. À organiser des voyages, à faire ce que vous voulez derrière, mais du transversal. Et à l'heure actuelle, on peut dire que les enseignants qui fonctionnent très bien, eh bien, ils passent plus de temps au transversal qu'au disciplinaire. Et on y gagne dans un établissement. D'ailleurs, vous avez tous des exemples de gens qui sont pratiquement toujours dans l'établissement, qui sont sur plein de projets, qui tournent. Et puis, il s'avère aussi que ce qu'ils font avec leurs élèves, ben, c'est en général meilleur que... Enfin, c'est très bon, quoi. Donc, ça veut dire que... Et ils sont pas en burn-out pour ça, les gars.
Avec, je reprends souvent ce terme que m'avait donné un inspecteur général il y a bien longtemps, qui définissait un enseignant comme une profession libérale à statut public. Ouais. Il disait profession libérale parce que dans son cours, au lieu de commencer par le chapitre 1, il commence par le 12, il fait le 2, le 7, le 9, il organise son cours comme il veut. Les élèves arrivent le jour de la rentrée, à 8h, ils n'ont jamais eu cet enseignant, à 10h, ils savent tout de lui. Parce que ça circule, voilà, parce que, voilà, donc, et on est dans ce paradoxe-là. On peut aussi se créer sa propre fatigue. Mmh. On peut aussi se créer, parce que un enseignant, ça évalue, donc mettre en commun, c'est mettre aux yeux de tous mon travail, donc avec la peur d'être évalué par les collègues. Voilà. Et toutes ces plateformes de mutualisation, que ce soit à l'UFM.
Alors, on a beaucoup de mal à les faire tourner.
Beaucoup, énormément de mal à
tourner.
À se mettre en place, hein, énormément de mal à se mettre en place. Et le fait de mutualiser, ben c'est, moi je dirais quelque part, c'est du boulot en moins qu'on peut consacrer à faire autre chose.
Ouais. Alors un dernier petit mot, si vous me permettez, sur les domaines généraux, parce que tu l'as pas abordé.
Pas vous couper la parole.
Voilà. Je pense par exemple aux collègues qui interviennent en PSE, aux collègues en art appliqué. Bon, ils voient en général tous les élèves de l'établissement. Bon, alors que le domaine professionnel, bon, en général, ils sont sur deux classes, qui sont des groupes. C'est-à-dire qu'en gros, ils fréquentent quoi? Ils fréquentent une trentaine d'élèves, vous voyez, 30 élèves. Alors que une collègue de biotech, à Béjuy, doit en fréquenter 400, quoi, en gros, si c'est pas plus. Elle va avoir très souvent, c'est des cours qui durent une heure. Donc elle va avoir... 12, 13 classes, hein. Enfin, j'ai une collègue. Oui, voilà. Donc, ça veut dire que, en définitive, vous vous rendez compte, arriver à mémoriser tous ces élèves, arriver à suivre tous ces élèves, il n'y a pas le lien, il n'y a pas ce lien qui se crée avec, comme avec le prof d'atelier. Et c'est pas péjoratif, hein. Enfin, si, mais c'est moins facile, quoi. C'est plus long. Et puis, il y a aussi autre chose. Tout à l'heure, quand je disais qu'une période de formation en entreprise, c'est quelque chose qui doit se faire en équipe. Et la prof de biotech et la prof d'art appliqué, voire la prof d'anglais, pour arriver à s'impliquer pleinement dans toutes les équipes, il faut forcément qu'elle fasse des choix. Donc, c'est vrai que pour les domaines généraux, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi énormément de choses au niveau des maths, par exemple, les profs de maths sciences, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont de... il y a toute la partie science maintenant qui se fait sur des manips, en groupe. Très souvent, les moyens horaires sont pas toujours là dans les établissements. Hein. Il faut qu'ils se battent, les collègues, pour arriver à avoir les moyens horaires pour pouvoir enseigner, etc. Donc c'est vrai que il faut reconnaître que pour des collègues des domaines généraux, au-delà de tout le reste, hein, je veux dire, c'est pas facile à vivre, quoi. Il y a des choses qui sont compliquées.
D'où ma première question, ouais. Est-ce que c'est le même métier?
Ouais, c'est pas forcément, oui, même pour les inspecteurs, d'ailleurs, c'est pas le même métier.
Ouais.